Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Hieronymus. Salut à toi.
Salut Baptiste, c'est Hieronymus.
Hieronymus. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire les « ous » et tout. Bref. Hieronymus, tu es ici dans le DIWA en vélo. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, du cyclonomadisme.
C'est exact. Le cyclonomadisme ou le cycloclochardisme.
Ah
c'est...
Est-ce que tu voudrais d'abord te présenter un peu aux auditeurs?
Oui, je voudrais bien me présenter. Ben, tout d'abord, je me présenterai de façon classique. Je m'appelle Hieronymus. Je suis donc hollandais d'origine, né à Nimègue, qui se trouve dans l'est de la Hollande, tout près de la frontière allemande. Où donc, et vous ne le soupçonnez pas, il y a des véritables dénivelés. Et oui, je viens des hauts plateaux de la Hollande. On est à 58 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est donc là-bas que je fais mes mollets, mes cuisses, en me tapant des allers-retours à l'école, d'abord le primaire, après le collège. Ouais, à travers les quatre saisons hollandaises, je vous laisse imaginer ce que cela présente. Donc, je vous parle du cyclonomadisme. Alors, le cyclonomadisme est une forme de voyage qui est en pleine expansion, je dirais. Non seulement parce que c'est une façon extrêmement agréable de voyager, mais cela vous permet aussi de découvrir le monde et les gens qui l'habitent en toute sérénité. Alors, je voudrais demander aussi à Baptiste de temps en temps de me poser des questions.
Ah, mais bien sûr. C'est dès que tu t'arrêtes, je pose une question. D'ailleurs, j'en ai plein. Ce modèle de voyage, à partir de quel moment tu décides de le faire et est-ce que depuis, tu ne t'es jamais arrêté?
Ben, c'est suite à, on peut dire, un genre de pétage de plomb. Je me suis donc sorti de mon cocon formaté, c'est-à-dire que j'étais salarié pendant des années dans un cadre familial, ceci pour assumer la paternité vis-à-vis de mon enfant. Et puis le sédentarisme est une forme de vie et une forme d'installation qui m'appréhende énormément. Je suis un gitan, un vagabond de nature. Alors après 12 ans de salarié, j'ai pris mes clics et mes claques un jour, j'ai plaqué mon appartement et j'ai mis tout ce que j'ai pu porter avec moi dans ma rémorque pour de cette façon parcourir le monde. J'ai pris cette décision-là puisque ma santé me le permet aussi de le faire, je suis en bonne condition physique. Et j'aime beaucoup voyager. Alors, je subsiste dans mes besoins en travaillant au cours de mon voyage, en cours de route. Ce qui se passe plutôt bien puisque pour cyclo-voyager ou pour cyclo-nomader, il faut que très peu de moyens. Et c'est une forme de voyage qui, évidemment, nous permet de rester en forme et de prendre de l'air.
Est-ce que tu saurais dire si la Hollande a une affection particulière avec le vélo et que c'est bien pour ça que finalement c'est facile de s'y mettre ?
Évidemment, je viens d'un pays qui a depuis longtemps la réputation d'être une terre de cyclistes, ce qui est vrai. Mais il faut dire aussi que les conditions géologiques et terrestres nous permettent tous d'avancer à une assez bonne allure, vu que c'est plutôt plat partout. Mais je ne pense pas par contre que la Hollande est un pays de cyclistes par définition. Ce qui diffère la Hollande d'autres pays européens notamment, c'est que le vélo est beaucoup plus utilisé pour les trajets quotidiens, c'est-à-dire pour aller travailler ou pour aller effectuer ses loisirs, puisque c'est un pays qui est très peuplé, donc il y a une grande densité en termes de population par kilomètre carré. Alors si tous ces gens-là vont prendre leur voiture, je ne pense pas qu'il y a encore quelque chose qui bouge dans le pays. Par contre, je pense que, et j'en profite d'être à la radio pour m'exprimer, je pense que le vélo devrait être un moyen de transport et un moyen de locomotion encore beaucoup plus répandu. Vu aussi que le thème de cette année, notamment en pays drômois, est ralentir, je pense que le vélo y trouve parfaitement sa place. Puisqu'on se déplace d'une façon beaucoup plus sereine. ce qui nous permet de contempler le monde qui nous entoure de notre œil et de rencontrer sur son chemin des gens avec qui on peut communiquer en live, de face en face.
Je voudrais qu'on termine quand même sur cette histoire de la Hollande, du vélo. Tu dis que quand même, ce n'était pas forcément la nation du vélo, mais que ça le devient. Comment les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent plus de vélo plutôt que de faire la voiture et ce serait tout bouché, ce que tu viens de dire. Il y a quand même, politiquement, il y a quelque chose qui a été fait. Beaucoup plus de pistes cyclables, des espaces dédiés.
Oui, il est vrai que politiquement parlant, il y a de plus en plus de progrès dans le domaine de vélo. Par contre, c'est un peu comme les logements sociaux, hein, les pistes cyclables sont en nette évolution, en net progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans des zones urbaines, ou justement sur un plan politique, je pense qu'on devrait vraiment interdire carrément la circulation en voiture dans les centres-villes et dans des zones urbaines. Et petit à petit, venir à un niveau de vie qui nous permette de laisser la voiture là où elle est, puisque en gros c'est un moyen de locomotion qui est très rapide, il est vrai, mais je pense que beaucoup d'automobilistes ne se rendent pas compte du danger qu'ils représentent pour eux-mêmes, pour les gens qu'ils entourent, et en plus c'est extrêmement désagréable de se voir entouré par énormément de véhicules motorisés.
Ça pue.
Ça pue du cul.
Et est-ce que tu dirais qu'il y a comme ça une vraie différence, par exemple, avec la France ?
En effet, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas avoir peur sur les routes, et notamment sur les routes françaises. Puisque bon, bah, souvent, je me gratte la tête en me demandant comment est-ce que certains gens ont fait pour obtenir leur permis de conduire. Mais malheureusement, ces derniers temps, je me constate, et c'est peut-être un rapport avec les gadgets et les voitures suréquipées ces derniers temps, mais les gens ont plutôt tendance à s'imaginer derrière une console de jeu ou en faisant des voitures que étant dans un véhicule et être censé être une personne responsable de nature.
C'est-à-dire, ils roulent plus vite
Ils roulent beaucoup plus vite, ils ne respectent pas la distance qui est recommandée entre vélo et voiture en les doublant. Les voitures, les automobilistes sont extrêmement impatients, ils ne peuvent tout simplement pas attendre que la personne qui vient d'en face ait passé pour te doubler. Ils sont tout le temps pressés, il faut vraiment faire très attention sur les routes, oui. Notamment parce que les accotements sont quasiment inexistants. Par contre, ceci dit, j'étais bien surpris dans la Drôme, parce que dans la Drôme, il y a beaucoup plus d'accotements qu'ailleurs, j'ai constaté, au bord des départementales et des nationales surtout.
Ouais, bah là, ça leur fera plaisir puisque le département a mis je sais pas combien de millions d'euros et n'a pas fini encore sur cette route pour nous faire ce qu'on appelle l'autoroute Valence-Die, hein, qui permet donc aux automobilistes de rouler encore plus vite. Mais il y a des accotements pour les cyclistes. Cyclonomadisme, donc avec toi, Hieronymus, tu disais donc voyager, on va parler évidemment de la France, de la Hollande, ton point de départ, mais quels sont les pays que tu as traversés en vélo?
Ben, les pays que j'ai traversés en vélo sont notamment des pays en Europe, c'est-à-dire la Suisse, l'Italie et l'Espagne, puisque en Europe, il y a beaucoup de pays à visiter. C'est une terre quasiment inconnue et il y a beaucoup de personnes voyageant qui cherchent souvent des destinations beaucoup trop éloignées, je pense, puisqu'ils négligent un peu dans leur recherche et dans leur curiosité les belles découvertes qu'il y a à faire en Europe.
Et puis aussi ce petit côté militant écologiste un peu plus. Du coup, tu prends pas l'avion, non, tu fais que du vélo, quoi.
Je me déplace uniquement à pied et à vélo parce que bon, ben évidemment, ça me permet de rester en bonne santé, de rester dynamique dans mon quotidien. Je ne désirerais pas non plus passer mon permis. J'ai la hantise de l'avion et c'est un peu dommage parce qu'on vit dans un monde à double tranchant, puisqu'il y a de plus en plus des gens qui sont conscients du fait qu'on va en effet collectivement droit dans le mur. Et ceci justement parce qu'on ne ralentit pas assez. Et il y a beaucoup de gens très actifs et je les admire dans le milieu écologique et le milieu alternatif. Mais bien souvent, même eux, souvent, ils sont encore beaucoup trop accrochés à leurs vaches sacrées de l'Occident, à leurs petites consommatrices de pétrole et aussi à Internet. Et je vous le dis, et je me permets de le dire, c'est que notre support informatique planétaire a besoin de beaucoup d'énergie nucléaire, notamment pour pouvoir continuer à fonctionner. Et aussi ceux qui voyagent en avion, ils devraient des fois se poser la question et se regarder dans le miroir en se disant « Est-ce que je serais capable de parcourir la même distance d'une façon beaucoup moins polluante et en prenant en plus beaucoup plus de plaisir et en plus rester en excellente santé ?»
C'est vrai que quand on passe son temps assis entre deux avions pour aller d'un bureau à l'autre et faire ce qu'on appelle notre travail là, libéral, mondial, on fait pas particulièrement du sport. Enfin, c'est pas ceux qui brillent de la meilleure santé, en tout cas, quand on les voit.
Oui, en effet. Et ce que j'aimerais dire, alors je ne suis pas spécialement militant, comme tu as dit, ouais, peut-être vu de l'extérieur, mais moi je ne me vois pas du tout comme ça.
C'est ton action qui l'est.
Oui, mais c'est parce que j'ai tout simplement fait un choix. Alors je pense qu'on peut tous faire des choix. Bien souvent, dans des débats ou des discussions, il y a beaucoup de gens qui sont capables d'argumenter à la perfection leur mode de vie et leur vision de vie. Mais bien souvent, dans la pratique et dans la façon d'agir, ça manque de conviction, je trouve. J'étais en train de réfléchir à la suite, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus, notamment sur le fait qu'on devrait tous ralentir. Mieux, on ne devrait pas ralentir, mais carrément piler, il faut enfoncer la pédale de frein à fond. Puisqu'on a tous un avenir, et je pense que parmi beaucoup des auditeurs, il y en a qui ont des enfants, et je pense qu'il est grand temps qu'on pense à nos enfants, aux terres et à la planète qu'on leur laisse. Et puis j'aimerais y rajouter que si on continue de la même façon, à chaque fois en disant « oui, mais on n'a pas le choix », je pense que malheureusement, il ne nous restera pas beaucoup de temps à être heureux et à vivre en parfait équilibre et en bonne harmonie avec la nature environnante.
Merci Hieronymus, c'est un truc qu'il faut répéter souvent et nous on aime bien le dire encore à RDY et avec tes mots c'était...
Oui, on n'a pas 8 planètes, on n'en a qu'une, alors il faudrait à tout prix arrêter d'agir et de puiser sur les ressources qu'on a encore, mais qu'on n'a bientôt plus.
Cyclonomadisme avec toi, j'aimerais que maintenant qu'on parle un petit peu de comment tu as procédé. Donc tu pars de Hollande, tu parlais de Suisse, d'Italie, de France, d'Espagne. Tu as même cité cyclo-clochardisme. Donc tu vas où et comment tu vis et quels sont les travaux que tu vas faire?
Tout d'abord, le cyclonomadisme ou bien comme tu veux, le cyclo-clochardisme.
C'est toi qui l'as dit. Hein.
Ouais, ça a un air, ça a une petite teinte un peu péjorative peut-être, mais il s'agit de un métier à part entière, puisque en tant que cyclonomade, évidemment, il est très important de gérer sa logistique et de rester bien organisé et aussi bien présentable, puisque souvent on procède à des entretiens d'embauche où on cherche du travail. Souvent, je suis mort de rire quand je appelle le 3949, un numéro que vous connaissez sans doute, où on fait justement souvent allusion aux inactifs. Je fais partie de ces inactifs parce que je suis un chômeur, je suis sans emploi, alors c'est-à-dire la plupart du temps. Par contre, mon quotidien est un métier à part entière, comme je le disais avant, puisque cette logistique-là, il faut le gérer, mais très, très, très précieusement.
Alors, comment donne-nous des exemples?
Alors, la logistique d'un cyclonomade ou cycloclochard commence souvent le soir, où on s'installe notre bivouac. J'aimerais préciser que la plupart du temps, sauf en cas d'extrême urgence sanitaire, je prends un camping, mais la plupart du temps, je fais du camping sauvage. Ce qui se passe d'ailleurs très bien dans tous les pays que j'ai voyagé, puisqu'on est dans l'effort, on a un petit look de sportif. Alors les gens, ils sont pas très réticents. Tu te fais souvent inviter aussi. Mais la logistique, comme je disais, commence le soir. Puisque avant que tu te couches dans ta tente ou sur ta bâche, il faut déjà préparer le lendemain. C'est-à-dire, ben, évidemment, comme à la maison, hein, il faut faire les vaisselles avant de se coucher. Pour pouvoir, au plus tôt le lendemain matin, il faut gérer le côté technique et mécanique de son vélo pour que ta bicyclette, elle t'apporte là où tu désires y être. Alors, ça nécessite beaucoup de bon sens, je dirais, pour être cyclonomadisme.
Nomade. C'est un bon vélo.
Ouais, je peux dire que j'ai un bon vélo. Ouais. Bon, c'est plutôt une bicyclette, je préciserai, puisque elle a un nom féminin. Elle s'appelle Léonore. D'ailleurs, c'est Léonore 2 que je monte en ce moment. Et c'est un vélo qui est régulièrement bichonné, qui a sa petite dose de graisse et des pièces neuves quand le besoin s'en ressent.
Léger. Performant,
bon, mais le côté technique, bon, c'est un cadre de VTT que j'ai équipé en vélo de route, c'est-à-dire que j'ai adapté les roues, la transmission et notamment les pneumatiques. Et n'oublions pas ma selle, qui est, c'est pas du pub, hein, mais c'est un Brooks, c'est un selle en cuir, voilà, qui est devenu avec le temps un véritable fauteuil. D'ailleurs, il est très dur d'en descendre des fois.
Ah ouais, ça c'est le truc numéro un, le cycliste a toujours mal au cul, toi non?
Non, j'ai jamais mal au cul.
Donc tu voyages dans ces pays et là on a parlé de cette histoire de bivouaquer, finalement c'est très facile puisque tu as un bon look de sportif. Par contre, tu vas chercher des boulots saisonniers en fait.
Oui, je cherche du boulot saisonnier, alors j'ai plusieurs façons d'y procéder. Alors, soit j'ai une lettre de candidature spontanée type avec mes diplômes et mes qualifications et un CV que je trimballe avec moi dans des enveloppes et que je dépose en cours de route dans des boîtes à lettres des institutions, des entreprises et des structures qui sont susceptibles d'embaucher des personnes, je dirais, polyvalentes plutôt.
Quel type d'entreprise ?
Alors, je vise pas spécialement des métiers. Alors, ce que je préfère surtout, c'est travailler à l'extérieur, plus dans des cadres pas pollués, ce qui devient de plus en plus difficile puisque je fais beaucoup de travail saisonnier. Alors, comme dans des grandes structures, on joue surtout sur le rendement et la production, mais il y a beaucoup d'applications d'insecticides et pesticides qui sont d'ailleurs très dangereux. Alors, je prends un peu mes distances avec le métier agricole, sauf si c'est en agriculture raisonnée ou bien en bio. Et sinon, ben, je travaille aussi sur des campings. Je peux être réceptionniste à la limite, mais je m'abstiendrai plutôt. Et sinon, je suis accompagnateur touristique de métier.
Et ça, tu t'en sers ?
Non, puisque je suis dans une reconversion professionnelle dans laquelle je veux transformer mon statut professionnel en accompagnateur cyclotouristique.
Et tu maîtrises du coup comme ça plein de langues. Je pense, alors bon, le hollandais évidemment, l'allemand puisque c'est juste à côté, le français que tu parles excellemment bien, je sais que tu parles espagnol. Quoi d'autre ?
Ben, t'as tout dit, Baptiste, il te manque plus que l'anglais.
L'anglais, bien sûr.
I speak English as well.
Et c'est vrai que là, tu t'es jamais dit, tiens, ben, en ayant comme ça une connaissance un peu plus accrue de plusieurs pays européens, et en fait, tu viens de le dire, tu accompagnateur cyclotouriste, en fait, ça devient presque le métier qui va t'allier à la fois ta manière de vivre, ta passion et...
Oui, exactement.
Est-ce que tu savais faire avant ?
Ce que j'aimerais préciser, c'est que je suis cyclonomade, cycloclochard de nature. Par contre, j'ai toujours mes antennes bien sorties. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus une obsession. J'aime beaucoup rouler, j'aime beaucoup bouffer des kilomètres et prendre plein les yeux en termes de paysage et en termes de nature. Mais en ce moment-là, il y a le pays de Drôme qui m'envoie des petits signaux. Le sens, il est peut-être temps de s'y installer quelque part, ne serait-ce que pour une durée indéterminée, et de profiter un peu du potentiel du pays, qui est un pays qui est beaucoup fréquenté par des cyclistes et des cyclo-voyageurs. Et j'aimerais mettre au point alors un cadre cyclotouristique. en proposant des boucles cyclotouristiques se déroulant sur un jour ou plusieurs journées, ça se peut aussi. Et ce seront des boucles à thème. Et je pense notamment au thème l'écologie. J'ai remarqué que dans la Drôme, l'agriculture biologique et l'agriculture raisonnée est en pleine expansion. Et il y a beaucoup des esprits bienfaisants ici. Et j'aimerais donner l'occasion aux voyageurs, aux touristes visitant le Drôme, de découvrir ces sites et de découvrir ces cadres qui nous offrent une toute nouvelle forme de penser et d'agir.
Alors, comment tu veux t'y prendre, là, par exemple, pour ça ? Parce que c'est un super projet.
Ben, je ferai des tours de repérage, c'est-à-dire que je tourne en vélo, en dépistant et en cherchant des communautés autonomes ou des fermes où on fait de l'agriculture biologique, que j'incorpore ensuite dans une boucle cyclotouristique bien gérée. Pour cyclistes confirmés et ceux qui peuvent vraiment pas s'en abstenir, le vélo électrique, et j'ai du mal à sortir le mot, parce que vraiment, c'est pas ça la solution. Alors le vélo, c'est pour faire du bien. Alors, si vous n'aviez pas envie de vous casser le cul, ben, continuez à marcher, mais ne prends pas le vélo, parce que oui, un boîtier, oui, il faut appuyer sur les pédales. Et voilà, en ce qui concerne le vélo électrique, alors, ce n'était pas du tout le thème, j'aimerais y rajouter que j'aimerais que la vente de vélos électriques soit autorisée aux gens qui peuvent démontrer de façon officielle une déficience physique. Mais je pense que quelqu'un qui est en bonne condition physique et qui dispose de tous ses moyens musculaires, ben, devrait tout simplement faire du vélo, quoi. Oui, il faut faire de l'effort, mais vous allez voir, ça fait du bien de se casser le cul des fois. Ça débloque l'endorphine.
Bon, bah c'est dit. Moi, à la limite, pour mettre peut-être un petit bémol, mais effectivement, ce que tu mets en avant, c'est la flemme qu'on a à faire des efforts en n'importe quelle circonstance, pas que sur un vélo. Mais si au moins ces vélos électriques tournaient avec de l'énergie qu'ils produisaient eux-mêmes et qu'on ne soit pas obligé de les recharger, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire que quand tu es en descente, tu charges un peu une sorte de batterie et puis en montée, tu l'utilises jusqu'à ce qu'elle n'y soit plus. Mais
alors,
tu vois, une sorte de récupération, quoi.
Dans ce cas-là, je proposerais qu'on zappe, qu'on oublie les éco-bonus qu'on donne des fois aux acheteurs de vélos électriques. Ben, ils n'ont qu'à fournir un vélo d'appartement avec et un accu, et comme ça, ils peuvent pédaler. Tout en étant chez eux et en rechargeant en plus leur batterie. Et pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s'en abstenir, ben, ils peuvent même regarder la télé en entendant. Ou bien faire Facebook.
Alors du coup, ben, voilà, je me perds.
Moi aussi, à vélo, on se perd souvent, mais ben, c'est ça le trip. Alors, on n'a pas toujours une destination. Des fois, on monte en selle et puis, bon, on va vers le sud, le nord, l'est ou l'ouest, mais sans avoir une destination précise, tout en vous précisant qu'il y en a toujours une.
C'est vrai, ça, tiens, c'est pourquoi tu pars, où tu pars ? Qu'est-ce qui te guide ?
C'est mon cœur et mon envie. Ça m'arrive de bivouaquer le soir, de déplier ma carte et puis de me trouver une destination pour le lendemain. Mais au réveil, je peux tout simplement avoir décidé que, bon, peut-être que je ne pars pas en Corse aujourd'hui. Alors, je pars en Corse et je fais le tour de la Corse.
Voilà, c'est un désir, parfois, par exemple, tu as envie d'avoir plus chaud, tu as envie d'avoir plus froid. Enfin, est-ce que c'est pas pragmatique, quoi ? Tu sais pas pourquoi tu...
Si, alors, tu as dit le mot, c'est pragmatique. Alors, en termes de travail, en termes de cadre professionnel, bon, des fois, il y a des délais à respecter. Il faut être à tel endroit, à telle heure, à tel jour. Alors là, oui, on coordonne en quelque sorte notre cyclo-voyage et on s'est établi des véritables étapes et nombre de kilomètres à respecter quotidiennement.
Et sinon, ta moyenne, toi qui aimes bouffer les kilomètres, c'est combien ?
En moyenne, et ça c'est quand je voyage seul, je voyage d'entre 110 et 130 kilomètres par jour. Sans faire d'efforts particuliers, sans spécialement appuyer très fort sur les pédales. Bon, évidemment, des fois, il y a un peu plus de dénivelé que d'autres jours. Et d'autres jours, ben, le vent, qui peut être un véritable casse-couille, ben, il se transforme en ami chaleureux et te pousse dans le dos toute la journée, ce qui m'a permis un jour notamment de faire 230 km dans la journée. Oh, merci Mistral. Et des fois, bon, ben, tu fais une journée de 20 km ou de 34 km tout au plus, parce qu'il y a deux cols avec un dénivelé en tout de 3000 mètres à passer.
Est-ce que tu t'es déjà fait ta plus longue durée en vélo ?
J'ai pas la plus longue durée à vélo. Je pense qu'on peut parler dans ces termes-là quand on fait des voyages intercontinentaux, parce que là, le vélo se transforme davantage en moyen de locomotion extrêmement efficace. Si on veut traverser l'Ouzbékistan, ben, il faut voyager à une allure de 150 km par jour au minimum, et ça, il faut le maintenir pendant 9 ou 10 jours.
Pourquoi ?
Parce que il y a un délai de visa qui est à respecter, il y a un visa de transit qui joue un rôle, alors du coup, il faut que tu calcules tes kilomètres, et il te faut faire un certain nombre de kilomètres par jour pour arriver à la destination dans le délai du visa.
Tu es allé dans ces pays-là ou dans des pays chauds,
un peu rudes ? Non, pas encore. Par contre, c'est des voyages que je m'envisage de faire. Mais géopolitiquement, en ce moment, j'hésite un peu. Ouais, je préfère tourner en Europe, notamment parce que ça ne m'éloigne pas trop de ma fille, que j'aime énormément. Je ne pense pas qu'elle écoute, hein, mais je le dis quand même. Mais je tourne en Europe parce que ça me va très bien. Hein. En Europe, il y a plein de choses à découvrir. Cela dit, oui, j'aimerais aller en Amérique du Sud, mais en faisant du bateau stop.
Et après vélo là-bas, quand même. Sur le
continent. Après vélo là-bas, évidemment.
Ouais. Oui. Et tu sais, donc tu sais où est-ce que tu as rencontré peut-être des gens qui savent si c'est plus facile de passer des frontières en vélo qu'autrement ?
Oui, j'ai rencontré des cyclo-voyageurs intercontinentaux. Et le voyage à vélo, ben, dans un cadre général, se passe plutôt bien, mais le monde en ce moment est soumis à tellement de changements qui sont en accélération continue qu'on ne peut jamais voir d'avance comment un voyage va se dérouler, où est-ce qu'il y aura des problèmes d'ordre politique sur place.
J'aime bien cette idée de politique. Est-ce que tu te sentirais témoin de quelque chose qui est en train de se passer en Europe, et notamment à travers ces pays-là qu'on a cités, Suisse, France, Espagne, Italie, Hollande ?
Ben, Baptiste, écoute, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Alors, tout d'abord, je pense que l'Europe et l'Occident, le monde capitaliste, se perdent un peu dans sa recherche de confort. Et je constate en effet un changement, oui, il y a du changement. Les gens deviennent de plus en plus individualistes, ils vivent de plus en plus dans la peur. Ils ont tous de plus en plus envie et besoin de se protéger. Et les gens ont trop tendance à s'enfermer dans des outils, je dirais, multimédiatiques, parce que selon les gens qui m'entourent, ça facilite la communication et ça facilite le fait qu'on peut véhiculer des informations et des visions du monde plus facilement, mais je ne pense pas que ça soit comme ça que cela devrait se passer. On devrait s'approcher un peu plus les uns des autres. On vit tous ensemble. On a tous besoin les uns des autres. Puisque vu qu'en Europe du Sud et en Europe d'Est, il y a de plus en plus de fugitifs et de réfugiés qui s'entassent pour venir courir après notre rêve. Et je trouve ça problématique. Beaucoup de gens aussi qui abusent de ce flux de fugitifs et des réfugiés, notamment des employeurs, qui se permettent de faire travailler des gens à des taux horaires abusifs. Et voilà, oui, je vois un changement, oui.
T'as vu ça, par exemple, on sait qu'en Espagne ou en Italie, C'est quelque chose qui se fait beaucoup, de tourner avec ce qu'on appelle des agences d'intérim qui prennent des gens à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est. Tu t'es
Oui,
retrouvé dans ce genre d'ambiance?
je me suis trouvé dans ce genre d'ambiance et je trouve ça regrettable, notamment parce qu'il y a un gouvernement qui laisse passer, qui donne aux employeurs en quelque sorte le feu vert de procéder ainsi. Et à côté de ces réfugiés et fugitifs, il y a aussi une population nomade européenne qui est très importante et qui eux aussi dépendent de ces travaux saisonniers. Et je pense qu'on devrait partager la poire en deux et faire pression notamment sur les employeurs et notamment dans le domaine agricole de leur payer le même taux horaire qu'ils payeront un ressortissant de la communauté européenne.
Voilà, et je précise qu'en France, ça se passe aussi, hein, on n'oublie pas, avec ces mêmes agences d'intérim d'ailleurs, parce que rétablir, hein, j'avais dit l'Espagne, l'Italie, mais en France aussi. Hieronymus, merci pour toute cette expérience sur le cyclonomadisme. Est-ce que tu as encore un.
Oui, j'ai oublié de passer un grand bonjour
Ah.
à ma cyclo-gitane préférée.
Oui, parce que
Ouais,
des fois, tu as dit nous, c'est vrai que vous êtes deux en
oui,
fait, hein.
parce que ces derniers mois, j'ai le plaisir de voyager à deux. J'ai rencontré un jour dans les montagnes drômoises une cyclo-gitane sur une bicyclette bleue telle que la mienne, avec une guitare accrochée dessus. Et puis, avec Laetitia, ça fait maintenant quelques mois qu'on parcourt les routes françaises et avec qui j'envisage en effet de partir dans des zones un peu plus chaudes dans quelques temps. Et j'embrasserai aussi très fort ma tribu préférée, c'est-à-dire la famille Apaya. Ouais, j'embrasse très fort Ariel et Jacques, qui sont devenus des très grands amis grâce à Tom que j'ai rencontré dans les olives. Et j'aimerais aussi embrasser le pays drômois tout court parce que c'est un très beau pays, c'est une très belle terre et je le parcourrai avec grand plaisir et grande joie avec ma bicyclette.
Ben merci, tiens, je dis merci parce que je me sens drômois. Tiens, cette dernière question, alors voyager à deux, est-ce que ça impose d'autres choses? Est-ce qu'on est obligé de faire des concessions comme dans
Ah
un couple?
oui, ah
Savoir qui va
oui.
choisir la destination?
Mais oui, il faut faire des concessions et il faut faire des compromis puisque je ne peux pas non plus demander de la part de Laetitia de se soumettre à mon rythme habituel puisqu'elle n'est pas aussi habituée au vélo que moi. Donc oui, il faut faire des compromis et ça demande une toute autre approche du voyage. Mais encore, quand on respecte et quand on accepte, on aime profondément, alors tout compromis devient possible.
Hieronymus, merci. Tu reviens quand tu veux.
Avec grand plaisir, Baptiste.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.